Je lis le verset 11. La Bible dit ceci. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Prions ensemble. Dieu notre Nous te remercions encore une fois de plus pour ce précieux moment que tu nous donnes dans ta présence. Nous avions tous chanté avec joie. Nous voici maintenant prêts pour t'entendre. Parle au cœur de tout un chacun. Toi qui connais le besoin de chacun, réponds à chaque besoin et rend notre joie parfaite. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Tout intellectuel peut la lire. Mais nous croyons que la révélation vient de toi. Révèle-nous le contenu de ce que nous venons de lire. Et à la fin que la gloire te revienne. Car nous te le demandons ainsi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen.
Amen.
Pouvons nous asseoir. Nous avions commencé à parler hier sur le livre de Job. C'est parmi les plus vieux livres. Le livre de Job, comme le frère Branham le disait, il a été écrit presque au même moment qu'avec le livre de la Genèse. Dans ce livre, nous trouvons des profondeurs. L'expérience que Job avait expérimentée, comme nous les lisons encore dans Jacques le chapitre 5, cela nous est donné comme un exemple. La vie de Job, son expérience, c'est aussi la marche de l'Église. L'Église a traversé aussi des différents moments difficiles. Mais l'auteur de cette Église, il veille sur son œuvre et lui-même va l'achever. Et dans ce livre, comme nous l'avions vu hier, on nous parle de Job, de sa famille, de ses amis, on nous parle de Dieu, et on nous parle aussi de Satan. L'ennemi a tout fait pour décourager Job, l'amener à maudire Dieu, mais c'est là plutôt rapprocher Job davantage du Seigneur. Comme nous l'avions dit hier, Dieu avait un objectif qu'il poursuivait. Et la fin, nous verrons la fin ou l'objectif que Dieu poursuivait dans la vie de Job. Après avoir lu quelques passages hier, j'aimerais lire quelques passages ci et là, les interventions des amis de Job. Si vous lisez dans Job le chapitre 5, hier on a lu le chapitre 4, l'intervention de
Eliphaz
qui avait parlé en premier. Et dans le chapitre
5,
nous disons ceci. Il dit ceci, au verset 3. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Au verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses choses grandes.
Et on a fait mambo makubwa.
Insondable.
Il a tout kuchunguza.
De merveilles sans nombre.
Mambo makubwa sana.
Quand vous lisez toutes les trois interventions de d'Eliphaz.
Kama unasoma usoma kusema kote kwa Eliphaz.
Il essaie de faire voir à Job que tu dois avoir péché. C'est pourquoi ce malheur t'arrive. Et c'est la tendance humaine. Quand un malheur frappe quelqu'un, on a vite tendance à dire peut-être qu'il a péché. Si vous lisez dans Jean le chapitre
9,
l'homme qui était né aveugle, les disciples ont parlé au Seigneur. Ils ont posé la question. Est celui qui a péché ou ce sont ses parents? Le Seigneur a dit ce n'est ni lui
ni
ses parents. Depuis la chute, nous naissons avec des défauts. Depuis que le péché est entré dans le monde, les choses ne sont plus dans l'état originaire. Mais comme nous les lisons, la vie de Job, le Seigneur poursuivait une chose. Et le même Seigneur, il le fait avec chacun de nous. Il nous conduit dans ses voies. Mais nous, en tant que croyants, nous devons plus être attentifs à ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu nous parle par sa parole. Et il veut que nous puissions marcher dans ses voies. Et quand on est distrait, des fois, on ne verra même pas sa conduite. Une fois le Seigneur parlait à
Balaam,
il lui a dit: Balaam, Israël est mon peuple, tu peux pas aller le maudire. Mais l'offre qu'il avait déjà reçue, Balaam était plus tenté à répondre à l'invitation de Balak. Et à la fin, le Seigneur lui a dit: tu peux partir. Et dans son cœur, il pensait: j'ai les feux verts du Seigneur. Et il est parti. Lui qui était engagé par
Balak
pour aller maudire les peuples des
dieux,
il finit par le bénir. C'est pourquoi, comme nous l'avions dit hier, notre Dieu, en anglais on dit overrule, je ne sais pas traduire ça bien en français, c'est que tout ce que l'ennemi peut avoir comme intention, Dieu est capable de la renverser. L'ennemi peut venir pour te détruire, mais Dieu est capable de changer le dessein de l'ennemi pour que cela concoure à ton bien, pour que cela te rapproche de Dieu. C'est pourquoi un croyant, tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Dieu veille sur nous et nous ne nous plaignons pas. Même la pauvreté, Dieu sait pourquoi tu te souffres. Peut-être c'est pour ton bien. Il a vu. Si tu te donnais beaucoup de moyens, il risque de te perdre. Et il te garde ainsi. Et tu te plains. Les voies de Dieu, elles sont insondables. Ce n'est que tard que nous les comprendrons. Et nous allons dire: Seigneur, c'était pour mon bien. Aujourd'hui, nous aimerions tous être aisés,
menant
une vie calme, sans difficulté. Mais le Seigneur connaît. Plus tu es dans l'abondance, tu vas l'oublier. Lisez le livre de Deutéronome. Quand Israël sortait de l'Égypte, Dieu dit à Moïse: ce peuple, il va m'oublier. Imaginez, frère, Dieu dit à Moïse: ce peuple va m'oublier. Mais avant qu'il ne m'oublie, compose un cantique. Je le lis vite. Et puis nous allons passer. Deutéronome. Je suis au chapitre 31. Au verset 16, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, voici tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traité avec lui. Au verset 19. Maintenant écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche. Et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ce père de lui donner. Au verset 22. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il enseigna aux enfants d'Israël. Et vous pouvez continuer à le lire. C'est le cantique qu'on appelle le cantique de Moïse. Plus le peuple le chantait, le peuple dansait, il prononçait des paroles, c'était un chant. Mais ce chant-là, Dieu dit, il servira de témoin. C'est que quand nous chantons, ce n'est pas le rythme, ce n'est pas pour faire danser le corps. Ce que nous chantons là, servira de témoin. Que Dieu nous fasse grâce. Frères, les voix de Dieu, elles sont insondables. Elles sont les meilleures. Des fois, elles sont pénibles. Mais à la fin, nous nous rendrons compte que ça valait la peine. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, comme nous les lisons, dans le chapitre 6 ou 5, Eliphaz a parlé. Pour lui, Job a péché. Il parle. Au chapitre 6, Job lui répond. Je lis d'abord le verset 8, on a lu 8. Je saute directement pour gagner le temps. On va prendre la réponse de Job après. Prenons d'abord Job le chapitre 22. Juste pour voir la pensée d'Eliphaz. Il dit ceci. Au verset 23. Chapitre 22. Verset 23. Il dit ceci. Permettez que je lise d'abord le verset 1. Eliphaz de Thème a pris la parole et dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu es enlevé sans motif. Dégage à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. C'est que pour Eliphaz, Job récoltait ce qu'il avait sémé. Mais pourtant ce n'était pas le cas. Si vous continuez à lire, il continue, il dit, le pays était au plus fort et les puissances s'y établissaient. Mais si vous rentrez au chapitre 6, Job répond, je saute directement au verset 24 du chapitre 6, il dit ceci, instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Donc pour Job, il n'avait point péché. Il ne se reprochait de rien. Et il s'est justifié. Vous pouvez lire jusqu'à la fin.
Dans
chaque fois que Eliphaz intervenait, Job revenait, il lui répondait, et il s'est justifié. justifier. Il marchait d'une manière intègre. Mais pour lui, il ne pouvait pas être condamné au... Cette souffrance qu'il souffrait, c'est comme s'il souffrait injustement. Et après qu'il fasse parler, le deuxième ami de Job, il s'appelait Bildad, il prend aussi la parole et se met à parler au chapitre 8. Il dit ceci. C'est bien de comprendre chaque intervention.
Pour
mieux comprendre la fin. Parce que si vous sautez toutes ces interventions, vous n'allez pas mieux comprendre ce livre. Il dit ceci au verset 2. Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vœu? Un vent impétueux. Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leurs péchés. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi. Et rendra le bonheur à ton innocence. À ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Et Bildad a continué. Et enfin, Job lui a aussi répondu. Au chapitre 9, au verset 2, Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui, sur mille choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute puissance qui le résisterait impunément. Au chapitre 10, c'est toujours Job qui parle. Job dit ceci: mon âme est dégoûtée de la vie. Verset 2, je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Au verset 7, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Frères et sœurs, la situation de Job ne faisait que s'empirer. Il s'est posé lui-même des questions. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais il ne pouvait pas comprendre. Dieu voulait briser son cœur. Car Dieu aime un esprit brisé, un cœur abattu. C'est ce que Dieu recherchait. Mais Job aussi n'en revenait pas. Tout ce bien perdu. Sa santé était devenue misérable. À un moment donné, Job dit ceci. La souffrance n'était pas seulement la journée, même la nuit. Au chapitre 7, Job dit ceci. Au verset 13, quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. C'est que même la nuit, après avoir souffert toute la journée, il se dit maintenant je vais aller me reposer. Même dans les songes, il était toujours tourmenté. Notre Dieu, quand nous dormons calmement, c'est par sa grâce. Quand nous nous réveillons le matin, c'est par sa grâce. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pas l'argent qui fait dormir. C'est Dieu qui nous donne un bon repos. Et Job dit, même la nuit, il était toujours tourmenté. Bildad a parlé.
Bildad a kasema.
Il a fini.
Akamaliza.
Et enfin,
sasa kumwisho.
C'était le tour de Sofa.
Yekwani Sofa apasha kusema.
Un autre, le troisième ami de Jean. Nous sommes au chapitre
11.
Celui-ci, quand il intervient, qu'est-ce qu'il dit? Je saute directement. Il dit ceci. Sofa de Nama a pris la parole et dit, cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Au verset 4, tu dis ma manière de voir est juste. Je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler. S'il ouvrait les lèvres pour te répondre. Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse. De son immense sagesse. Tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Au verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice ou
l'attente.
Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme sans crainte. Et Job prit encore la parole pour lui répondre. Là, nous sommes au chapitre 12. Il répond, il dit, on dirait en vérité que les gens humains se
vouent
et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Je ne vous suis point inférieur. Et Job répond, au verset 6, il dit, il y a paix sous la tente de pillage, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Job, il parle, et ses amis l'écoutaient. Au chapitre 13, je vais sauter directement, au verset 18, mais voici prêt à me plaider à ma cause. Je sais que j'ai raison. On va résumer un tout petit peu. Dieu avait un objectif. Job était un homme qui marchait selon les lois de Dieu. Quand vous lisez les débuts, vous verrez que Job était bien instruit. Il craignait Dieu. Il craignait le mal. Mais cela ne suffisait pas devant Dieu. Dieu veut que l'homme réalise d'abord que l'homme reconnaisse qu'il est pécheur. Dieu veut ça. Nous ne nous présenterons pas devant Dieu avec notre propre justice. C'est pourquoi quand vous lisez l'épître de Paul aux Romains, Paul a parlé de la justification par la foi, parce que c'est la chose la plus capitale. Se tenir devant Dieu sans tâche. Or, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes conçus dans l'iniquité. Mais là, comment apparaître devant Dieu? Et l'ennemi a tordu les voies de Dieu. Il y en a qui pensent que pour être juste devant Dieu, il faut appartenir à une église. D'autres font des cérémonies pensant que cela peut leur acheter une faveur devant Dieu. Mon frère et ma soeur, il n'y a pas de faveur devant Dieu. Il a des voies qu'il a déjà tracées. C'est qu'aujourd'hui, Job pouvait tâtonner. Parce si vous le lisez, dans le chapitre 14, il dit l'homme né de la femme. Il est à tout moment agité. d'un être souillé, peut-il sortir quelque chose de pur? Impossible.
Esaïe
64 nous dit, au verset 5, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Après la chute de l'homme, la présence de Dieu que l'homme était en train de se réjouir, quand Dieu l'a chassé, Adam savait ce qu'était la présence de Dieu. Il savait, il connaissait ce qu'il avait perdu. Mais il pouvait pas revenir dans cette présence avec le feuille de figuier. De même aujourd'hui, par la religion, tu
ne
peux pas revenir à Dieu et lui être agréable. C'est pourquoi Jésus-Christ, le sacrifice parfait, a été offert pour toi et moi, pour qu'en croyant en lui, que Dieu lui-même nous impute sa justice. Et cette justice-là n'est pas notre justice, c'est la justice de Dieu. Quand Dieu te regarde, c'est comme si tu n'as jamais péché. Et dans ce livre, il y a un chapitre intitulé La justification. Vous pouvez le lire du début à la fin. Vous allez comprendre que pour Dieu, ce qui importe, c'est ce qui provient de lui. Nous voyons un exemple dans le livre de Zacharie. Lisons le vite. L'écriture dit ceci. Zacharie le chapitre 3. C'est juste un exemple. Zacharie vit en vision. Il dit ceci au verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le même Satan qui accusait Jean. Le même Satan qui accusait le souverain sacrificateur. Dans Apocalypse le chapitre 12, il est appelé l'accusateur de frères. L'écriture nous dit ici, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime,
Satan,
que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Jésus était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. C'est ce que notre foi fait quand nous croyons en lui. Ton passé est passé. Tous tes péchés te sont pardonnés. Et Dieu ne s'en souviendra plus. Alors il te faut croire. Joindre une église n'apporte pas le pardon. Alors il te faut une expérience avec le Seigneur pour que tes péchés te soient pardonnés. Même si l'accusateur venait et qu'il t'accusait, quand Dieu te voit, regarde, il te voit sous le sang. C'est pourquoi le livre de Job, c'est un livre très important. Pendant que Job se posait beaucoup de questions, il ne comprenait pas lui non plus. Je saute. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait considérer. Je vais directement au chapitre 23. Job répondait Eliphaz. Il dit ceci. Maintenant encore ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Dans le chapitre 29, Job parle de son passé. Il se rappelle des beaux moments. Quand il était fort. Quand il passait dans des rues. Des hommes s'élevaient devant lui. Les gens le respectaient. Parce qu'il avait beaucoup de bien. Et puis il n'avait plus toutes ces choses. Il fait que parler de lui-même. Mais pendant qu'il parlait, Job n'avait plus rien. Il parle au chapitre
30,
le chapitre 31, mais arrivé au chapitre
32,
on nous parle d'un homme qui s'appelle Eliou. Il ne faisait pas partie des trois amis de Job. Il surgit tout d'un coup et il se met à parler de la part du Seigneur. Quand il parle, lisons-les ensemble. Il dit ceci. Ces trois hommes se servent de répondre à Job. Parce qu'il se regardait comme juste. Alors s'enflamma de colère Eliou, fils de
Barakel,
de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'il ne trouvait rien à répondre, et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Eliou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Eliou était plus jeune parmi des adultes, des hommes sages. Il parlait à Job, l'un après l'autre. Et il les attendait. L'un a parlé, il termine, Job répond. L'autre parle, il écoute, Job répond. Le troisième parle, il écoute, et puis Job répond. Et soudain, il s'est fâché contre Job et contre les amis de Job. Mais écoutez ce qu'il dit au verset
6.
Et Eliou, fils de Barak de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront. Les grands nombres des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que c'est pas le nombre des années, c'est pas les cheveux blancs. Dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne regardons pas à l'âge de quelqu'un. On a vu un jeune prédicateur le dimanche ici. Il a presque l'âge de mon fils. Dans les choses de Dieu, c'est l'esprit. C'est pas les cheveux blancs. C'est pourquoi Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que dans les choses de Dieu, c'est l'esprit. Dieu donne son esprit à qui il veut. Alors ne dis pas, mais toi tu es un enfant. Non frère, les voix de Dieu, elles sont insondables. Alors Eliou dit, je m'étais tu et je vous observais. J'ai attendu, mais j'ai compris une chose. C'est que quand il écoutait les trois là parler, il tapait à côté. Il entend Job parler, il tape à côté. Il dit non, mais là je peux parler. Alors il continue, il dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Au verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc nous comprenons. Ça, c'est pas le manque de respect vis-à-vis des adultes. Le respect vis-à-vis des adultes, Paul nous l'a dit dans Tite, notre attitude vis-à-vis des vieillards. Alors, il continue, il dit, au verset 12, je vous ai donné toute mon attention, et voici aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Aujourd'hui,
Léo,
dans les choses de Dieu,
Mungu,
on ne discute pas.
Atubishani.
Il faut que l'Esprit de Dieu puisse convaincre. Nous pouvons prêcher. Nous pouvons conseiller. Mais celui qui convainc, c'est Dieu lui-même par son Esprit. Frères et sœurs, tu peux faire tous tes efforts. Si le Seigneur ne convainc pas les cœurs, rien ne va changer. Alors Élie continue. Il dit, Job, tu te disais que tu es juste. Il dit à ses trois amis, vous aussi, vous aviez fait des discours, mais vous ne l'aviez pas convaincu. Et au chapitre 33, maintenant donc Job écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles, voici j'ouvre la bouche, ma langue s'est remue dans mon palais. Au verset
6,
devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas. Et mon poids ne sera t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles. Et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a point à moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met pied dans le cep. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai quand cela, tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. La mémoire de l'homme est faible. Tu peux pécher dans tes pensées. Juste par tes pensées. Et oublier. Tu peux pécher en paroles. Même dans les actes. Et oublier. Maintenant, Élie dit à Job, quand tu dis que tu es un innocent, tu commets une erreur. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre propre justice ne suffit pas. Nous voulons la justice de Dieu. Quand nous venons dans l'église, nous ne sommes pas plus mieux que celui qui est assis à côté de nous. Nous ne regardons pas avec mépris celui qui est assis à côté. Non, tu serais un pharisien. Mais par contre, nous sommes de ceux qui disent, Seigneur, je ne suis pas digne. Peut-être en parlant, j'ai bronché. Peut-être dans ma pensée, aie pitié de moi. Cette attitude-là, c'est celle que le Seigneur veut. Et voilà Eliou, si vous lisez tout son discours, il était très équilibré. Il a pris les trois amis de Job. Il les a mis à leur place. Il a pris Job. Il lui a mis à sa place. Du chapitre 32 au chapitre 37, Eliou ne faisait que parler. Il a exercé son ministère. Et enfin, au chapitre 38, c'est Élie qui parlait, mais cette fois-là, c'est le Seigneur lui-même qui s'est mis à parler. Et quand il s'est mis à parler, c'est la partie que nous allons voir enfin. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur dit dans Jean 12, quand il sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Ce que nous voulons,
c'est
élever Jésus-Christ. Pourquoi? Quand nous l'élevons, lui seul attirera tous les hommes vers lui.
Mais quand vous élevez un homme, quand vous élevez une église, les gens viendront à l'église et ils mourront dans leur péché. Mais il n'y a qu'un seul homme, Jésus-Christ. La Bible nous dit, il est notre justice. Quand nous croyons en lui, il devient notre justice. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit sans péché. Cette réalité, c'est celle que Job ne connaissait pas. Pour lui, il pensait, je ne triche pas, je ne fais pas ceci, devant Dieu, je me tiendrai avec cela. C'est comme ça que l'homme riche pensait. Il
dit
tous ces commandements-là, je les ai observés dès mon enfance. Mais en lui, il lui manquait la paix. Et il est venu vers le Seigneur. Il a dit, maître, que puis-je faire? Frères et sœurs, ce n'est pas ce que tu peux faire. Crois en lui. Si tu crois, tout est possible. Alors c'est pourquoi que le Seigneur nous fasse grâce. La marche de Job, c'est la marche de l'église. Une marche pénible.
Frère,
il retire Frère Branham. Le prophète, le messager, les hommes regardaient à
Branham.
L'auteur de l'église, il le retire. Les gens se disaient, peut-être sans lui, on ne sera pas avancé. Frère Franck se disait, mais sans ce ministère, comment nous continuer? L'auteur de l'œuvre avait promis, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et voilà, à la fin, il suscite un docteur et il le retire. Maintenant, ceux qui regardaient à l'homme, il reste à la maison. Nous on pensait, pas ce que tu penses. Nous l'avions lu à l'introduction. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il garde qui il veut. Alors lui, l'auteur de l'œuvre, il est dans son œuvre jusqu'à la fin. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, Dieu est bon. Notre Dieu, ses voix sont insondables. Nous le verrons ensemble le dimanche. Job ne comprenait pas les voix de Dieu. Tout ce qui lui arrivait dans sa vie, ça
les
rapprochait davantage. Plus il s'est posé des questions, plus les choses devenaient claires. Job commençait à comprendre. Déjà dans le chapitre 14, il comprend, il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Mon frère et ma soeur, ta vie est courte. Même si tu as l'argent, même si tu n'as pas l'argent, ta vie, elle est courte. Un jour, tu te tiendras devant Dieu. Mais avec quelle justice? Ta justice? Ta justice à toi? Elle est un obstacle. La Bible nous dit, Abraham crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. C'est qu'il s'était vu lui-même incapable. Il ne pouvait rien par lui-même. Alors il dit, pas seul, tu es plus que capable. Et cela lui fut imputé à justice. Souvenez-vous, Dieu lui a dit, tu auras un fils. Et la Bible, il crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Aujourd'hui, nous aussi, quand nous croyons au Seigneur, sa justice nous est accordée. Que son nom soit loué. Que Dieu vous bénisse.
On peut nous entonner un court cantique.